Allô.
Monsieur Lecoq.
Bonjour. Oui, vous pouvez m'appeler Jean-Michel.
Bonjour.
Jérôme.
Oui, c'est moi, c'est Jérôme. Oui, c'est du blog Le Bout de Bois.
Oui.
Donc, je vous remercie de me permettre d'avoir un entretien téléphonique avec vous.
Oh, ben, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à moi.
Non, mais je m'intéresse aux lettres ardennaises, donc vous en faites partie, donc voilà. L'entretien va se dérouler en deux parties. Une première partie, je vais parler de, l'auteur et de son œuvre, et une deuxième partie plus courte sur ce que j'ai une chronique aussi dans sur mon blog qui s'appelle Faire lire les Ardennes aux Ardennais, où là j'essaye de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les lettres ardennaises soient beaucoup plus vivantes. Mais on commence avec vous. Donc je vais vous présenter en vitesse pour les auditeurs qui écouteront cet entretien sur le blog. Donc vous êtes né à Bogny-sur-Meuse, donc vous êtes un vrai Ardennais, mais depuis un certain temps vous êtes installé dans le sud de la France, dans le Var. Et je sais que vous avez été aussi pendant un certain temps inspecteur d'académie dans le Sedanais.
Voilà. Alors, je suis né dans les Ardennes.
Oui.
Il y a maintenant 70 ans.
Mm-hmm.
Et à part quelques intermèdes, bref, un an au Canada, 3 ans en Haute-Marne. Et je suis descendu il y a 16 ans dans le Var, voilà, pour exercer ma profession d'inspecteur, pour terminer ma carrière que j'avais effectivement conduite pendant 17 ans dans les Ardennes, à Sedan.
Très bien. Et vous publiez votre premier roman, Le Secret des Toscans, en 2009. C'est-à-dire, bon,
c'est
si je calcule votre âge, vous aviez à l'époque 59 ans. Est-ce que la littérature est une vocation tardive ?
Non. Non, la littérature n'est pas une vocation tardive, mais c'est une, entre la littérature ou l'écriture, toi et moi, c'est une histoire un peu complexe. J'ai eu une activité professionnelle intense, hein, surtout quand je suis devenu inspecteur et très jeune, j'avais une trentaine d'années, donc mon temps était consommé par mon métier qui me prenait énormément. J'ai toujours écrit, je n'ai jamais véritablement publié, sauf au tout début enfin quand j'étais jeune homme, je vais avoir à peine une vingtaine d'années, j'ai publié un recueil de poèmes chez un éditeur parisien qui a disparu, qui était spécialisé dans la poésie, mais je n'ai jamais véritablement cherché à publier. Voilà, un jour, j'avais quand même envoyé, par curiosité, une nouvelle vers la fin, qui s'était dit intéressée, qui aurait aimé que je la transforme en roman. Je n'avais pas le temps, je n'étais pas à l'époque la moitié. Donc, c'est quand j'ai pris ma retraite, quand j'étais sur le point de prendre ma retraite, que je me suis lancé véritablement dans l'édition, enfin, que j'ai cherché à être édité.
Okay. Mais alors, donc, jusqu'à, pendant toute votre carrière professionnelle, vous avez continué à écrire, mais vous n'avez jamais rien publié.
Voilà. J'ai pas écrit abondamment,
mm-hmm.
mais j'ai dans ma bibliothèque, il faudrait d'ailleurs que je les retrouve, je ne sais pas exactement, je vois à peu près où ils peuvent se trouver, j'ai quelques manuscrits non publiés, mais qui aujourd'hui, ne valent plus la peine d'être publiés, il faudrait les retravailler considérablement.
Mais est-ce que les idées de ces manuscrits sont peut-être quand même encore intéressantes,
hein ? Non, aujourd'hui je suis parti dans un projet d'écriture qui les rend un peu obsolètes, voilà.
D'accord.
Peut-être certains écrits pourraient-ils être retravaillés sous la forme de nouvelles, peut-être, mais ce serait concurrent avec mon projet de travail actuel.
Très bien. Donc, votre premier roman publié en 2009 à l'Harmattan, c'est Le Secret des Toscans. Et la couverture du livre représente le château fort de Sedan. Vous pouvez en parler un peu plus, le lien du Secret des Toscans, parce qu'en fin de compte, le titre n'est pas très ardennais, mais avec la couverture du livre, bon, ça donne une piste, peut-être.
Voilà, alors j'ai essayé de d'être concis. Mon épouse est historienne. Et elle a conduit une maîtrise d'histoire à partir de l'état civil protestant de Sedan au XVIe siècle. et en fouillant dans l'état civil protestant de Sedan, en le mettant même en ordre, voilà, en le mettant à plat, et là, découvert qu'il y avait à Sedan au XVIe siècle, après, dans les années 1560, il y avait la présence de familles toscanes qui venaient de la ville de Luc et qui étaient des familles très riches, qui étaient à la fois des banquiers et des industriels, des commerçants, qui s'étaient investis dans ce qui faisait la fortune à l'époque de Sedan et les environs, le textile, et puis les petites industries, les filatures tout autour de Sedan. Et malgré des recherches approfondies, nous sommes aperçus que ces Lucois n'avaient fait l'objet d'aucune attention particulière, sauf quelques mentions, rares mentions, par les historiens, et notamment par les historiens locaux. Donc, nous y sommes intéressés, ma femme s'y est intéressée, et on s'est aperçu que c'était des Lucois qui étaient venus à Lyon, chassés, apparemment chassés en raison de leurs convictions religieuses, puis ensuite chassé aussi de Lyon, toujours pour les mêmes raisons, venant se réfugier à Sedan, qui était un peu le dernier refuge huguenot après la Saint-Barthélemy. Et mais finalement, nous sommes aperçus que c'est pas que ça, que c'était aussi des commerçants, des industriels, des banquiers qui cheminaient sur la route de la soie vers les Flandres. Ils étaient venus établir, l'hypothèse est qu'ils étaient venus établir une sorte de relais vers les Flandres, à Sedan. Donc, de là, l'hypothèse qu'ils avaient avec eux une fortune, etc., etc., et puis, bon, toute une fiction qui s'est greffée là-dessus. Voilà, c'est le rapport entre les Toscans et Sedan.
Très bien. Donc, vous avez publié jusqu'à présent une dizaine de romans, 10 exactement. Il y en a un 11e qui est très très prochainement dans les bibliothèques, hein, dans les librairies, je veux dire, et puis aussi les bibliothèques. Votre 4e roman, Portrait robot, il y a aussi une partie qui se déroule dans les Ardennes, si je crois bien.
Absolument, absolument. Dans les Ardennes belges, et même aussi à Charleville. Charleville et Ardennes belges, voilà, oui. Souvent dans mes romans, souvent, pas toujours, mais fréquemment, il y a deux récits. Il y a un récit qui est contemporain et un récit qui porte sur des événements anciens, plus ou moins anciens. Et c'est un ressort assez courant dans le roman policier, et même peut-être au-delà, c'est que deux récits distants de 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelquefois plus, finissent par se rejoindre au sein d'une même intrigue.
Oui, très bien. Votre 5e roman, Rejoint la meute, se déroule dans les Cévennes. Bon, il y a peut-être aussi un rapport Cévennes, Ardennes avec tous les protestants, je ne sais pas. Mais bon, il y a en tout cas dans ce roman qui se passe dans les Cévennes, donc pas dans les Ardennes, mais il y a l'apparition du commissaire Théo Payardel, qui a des origines ardennaises. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce personnage? Comment est-il apparu dans votre œuvre, dans votre imagination et dans vos romans?
Alors voilà, je voulais créer un personnage récurrent et j'avais déjà un personnage qui s'appelle Tragos, Capitaine Tragos dans Portrait robot, mais il ne me satisfaisait pas totalement. Donc j'ai voulu en créer un autre et bien sûr, comme beaucoup d'auteurs, j'y ai mis une part de moi-même dans ce personnage et j'avais... À l'époque, je faisais ma généalogie, la généalogie de ma famille, et j'ai retrouvé des traces pas très loin dans le passé de ma famille paternelle, qui était dont une branche était les Payardel. C'est le nom d'une fille de ma grand-mère, et il y a encore plein de Payardel dans les Ardennes, surtout dans la vallée de la Meuse, et donc vers Monthermé, Bonny, Deville, c'est un peu le berceau des Payardel. Et donc, une sorte d'hommage à mon grand-père, enfin à mes grands-pères paternels, mes arrière-grands-pères paternels, pardon, dont l'un s'appelait Payardel et l'autre se prénommait Théophile. Théophile, ça faisait un peu vieillot. Donc j'ai raccourci en Théo et c'est devenu Théo Paillardel, mon personnage récurrent. Voilà.
Et donc, c'est un personnage qui apparaît dans plusieurs, qui va apparaître dans plusieurs de vos romans par la suite. Hein.
Oui.
Et parfois, ce sont des romans qui ne se déroulent pas dans les Ardennes. Dans La mémoire de l'autre, c'est le sud de la France.
Voilà.
Dans Un charmant petit village, c'est la Provence. Mais est-ce que dans ces romans-là, vous avez donc le personnage Théo Paillardel, est-ce qu'il fait tout le temps référence aux Ardennes ou est-ce qu'il fait régulièrement référence aux Ardennes ?
Régulièrement, et même s'agissant d'un charmant petit village que vous situez en Provence, très justement d'ailleurs en Provence, puisque l'essentiel du suspense se déroule dans un petit village du Haut-Var, il y a parallèlement, selon le principe que j'énonçais tout à l'heure, il y a parallèlement au récit contemporain, un récit qui se déroule 15 ans auparavant dans les Ardennes, dans la région de Sedan, Mouzon. Voilà.
Ah, très bien.
Donc, il y a aussi dans ce polar provençal un lien avec les Ardennes. Il y a souvent un lien, quelquefois ténu, mais un lien avec ma région d'origine.
Votre 9e roman est vraiment un roman que j'affectionne particulièrement, Le squelette de Rimbaud, qui est vraiment très, très truculent. Donc là, Paillardel n'y apparaît pas, je crois. C'est un autre personnage principal. Ça a dû vous demander quand même pas mal de recherches, ce roman-là.
Oui, effectivement. Il y a deux de mes romans qui m'ont demandé un gros travail documentaire. C'est 24, un thriller historique que j'ai publié en 2012, et Le squelette de Rimbaud. Au départ, moi, je n'étais pas rimbaldien. Je suis toujours pas rimbaldien au sens expert du terme. Je connais, comme tout un chacun, et surtout comme les Ardennais, je connaissais Rimbaud, j'appréciais sa poésie et je reconnaissais son génie. Hein. Mais mes inclinations poétiques allaient davantage vers d'autres poètes comme Nerval, Mallarmé, et peut-être même Verlaine. Et Rimbaud n'était pas pour moi une icône. Et un jour, une idée a germé dans mon esprit. Cette idée était greffée sur Rimbaud. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, j'ai lu effectivement pas mal de choses. Bon, je suis toujours pas un expert de Rimbaud, mais je commence à avoir quand même des clartés sur sa vie, moins sur son œuvre, mais davantage sur sa vie.
Le squelette de Rimbaud, enfin, je suis toujours très intéressé par savoir comment germe une idée de roman chez un écrivain.
Ah.
Et alors là, j'ai une petite hypothèse quand j'ai lu ce livre, oui. Le squelette de Rimbaud. Vous faites référence au fémur de Rimbaud de Franz Bartel. Oui. Et parce que justement, il y a un des membres du conseil municipal de Charleville-Mézières qui veut faire une exposition Rimbaud, qui veut renouveler le musée Rimbaud, et donc il veut mettre en vitrine le roman de Franz Bartelt avec un fémur de Rimbaud. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le titre de cet autre livre, de ce collègue, qui a fait que votre esprit s'est emballé et puis c'est devenu tout d'un... On ne s'est pas contenté du fémur, on a été jusqu'au squelette.
Non, pas du tout. Alors, pas du tout.
Non.
Le fémur de Rimbaud de Bartel n'est intervenu dans mon intrigue qu'après le début de la scénarisation.
D'accord.
En fait, pour moi, si je devais définir l'imagination, l'imagination ou l'inspiration, je dirais que c'est un état d'esprit permanent, quotidien. Je pourrais écrire 365 romans si j'en avais le temps, les moyens matériels et surtout le temps. Il ne se passe pas, enfin, je ne dis pas 365, mais il ne se passe pas au moins de semaines où la vie de tous les jours, un événement, quelque chose que j'entends à la radio, à la télévision, que je lis dans la presse, ne fasse émerger dans mon esprit une idée d'intrigue. Alors, je suis obligé de faire des choix. Et un jour, discutais avec mon épouse, je ne sais plus exactement, on parlait de Rimbaud, naturellement, et sûrement à la suite d'un reportage qu'on avait vu à la télévision. Et l'idée m'est venue, je dis à ma femme, imagine qu'on exhume Rimbaud et qu'on retrouve, parce qu'on parlait de son amputation, et qu'on retrouve un squelette qui a ses deux jambes. Et mon épouse, qui est toujours bien inspirée, m'a dit, mais tu devrais en faire un polar, c'est une idée géniale. Bon. Donc, je suis parti. Je me suis dit, mais quel peut être le prétexte? Et c'est là que m'est venu, qui est venu se greffer sur mon idée, ben, le fémur de Rimbaud de Barthelt. Ben, je me suis dit, pourquoi exhumerait-on, pour quelle raison complètement loufoque, exhumerait-on le squelette de Rimbaud? C'est parti de là.
Très bien. Mais c'est vraiment un roman où on apprend plein de choses. On apprend énormément de choses sur la vie de Rimbaud. On peut lire aussi sa poésie parce que au début de chaque chapitre, il y a quelques vers du poète.
Et, non, ça, c'est pas mon idée.
C'était pas votre idée, non?
Non, c'est l'idée de mon éditeur. Mon éditeur a d'excellentes idées. Ah oui, bah,
mais c'était une bonne idée, je trouvais.
Dans un roman, l'éditeur a sa part. Il y a un travail. Quand le manuscrit est terminé, brut de décoffrage, il y a un travail avec l'éditeur sur l'équilibre du texte, de l'histoire, sur... Voilà, quand un éditeur est un vrai éditeur, il assure ce travail avec l'auteur. Donc, mon éditeur m'a dit, mais écoute, ce serait quand même... Ce qui serait chouette, c'est que tu mettes en tête de chacun de tes chapitres quelques vers de Rimbaud. J'ai trouvé l'idée excellente, et donc je me suis plongé dans un recueil des poèmes de Rimbaud, et j'ai choisi une façon un peu, pas aléatoire, mais presque, des fragments de poèmes.
Mais c'est une très bonne idée, effectivement. Votre dixième, donc le dernier roman qui est paru, La caresse des orties, et là c'est vraiment, on pourrait presque dire un retour aux sources, parce que Paillardel ramène ses collègues préférés dans la vallée de la Meuse, et c'est carrément presque un guide touristique pour eux, parce que... il leur fait découvrir vraiment la région.
Oui.
C'était un besoin particulier de replonger vraiment votre dixième roman dans les Ardennes? Même si il y a une partie qui se trouve quand même dans le sud de la France, pas très loin des Pyrénées, et une autre partie qui se trouve à Paris, ça se centralise finalement dans les Ardennes.
Bien sûr, oui, mais j'avais envie, je ne sais pas, peut-être une bouffée de nostalgie. J'ai gardé mes racines, hein, j'ai gardé des attaches très fortes avec les Ardennes, et j'avais envie de faire évoluer mon personnage dans ma région d'origine, dans sa région d'origine, puisque je vous disais tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de moi-même dans Paillardel.
Très bien, et donc le prochain roman qui va paraître, qui s'appelle Disparition, qui paraîtra, si je crois bien, le 13 novembre 2020, toujours aux éditions La Joanie, c'est donc encore avec Paillardel. Mais
oui,
ça ne se...
Paillardel, ben, je crois que...
Pardon? Oui? Non, allez-y.
Mon éditeur est devenu fan de Paillardel, et je dois même vous faire une confidence. J'ai écrit un autre polar avec Tragos, le commandant Tragos, celui de Portrait Robot, et il l'aurait publié s'il n'avait pas eu entre les mains des deux manuscrits, celui-ci plus un Paillardel. Et il m'a dit, écoute, c'est Paillardel, bon, il a sa préférence va à Paillardel. Et il m'a suggéré, et là c'est un challenge auquel il me met, et qui me, non pas qui m'effraie, mais c'est quand même une entreprise assez lourde, c'est de réaménager le Tragos pour en faire un Paillardel. Voilà, une enquête de Paillardel. Bon, pour le moment, j'attends, c'est en stand-by. Voilà, je le ferai sans doute, mais pas dans l'immédiat.
Pourquoi pas? Ouais. Et donc, Disparition se passe, enfin, si j'ai bien lu sur Internet, va se passer en Écosse, il y aura aussi un peu d'Arménie. Et les Ardennes, alors?
Ah, alors, les Ardennes, là, sont totalement absentes de Disparition. Mais comme je dis souvent à mes lecteurs ardennais, de temps en temps, il vous faut un peu d'exotisme, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans les limites du département. Non, il y a une intrigue, deux intrigues qui se déroulent en parallèle, une en Arménie, une en Écosse, et comme toujours, là, elles sont contemporaines, les deux enquêtes, mais elles vont se rejoindre, on s'en doute un peu, et avec un retour en France. Mais pas dans les Ardennes.
D'accord. Mais donc, c'est quand même Paillardel qui mène l'enquête.
Oui, ben Paillardel et Marthe Sénard, qui est son adjointe, et avec laquelle, vous le savez, il entretient, si vous avez eu la caractéristique, il entretient des rapports
particuliers. Est-ce que quand vous promenez Paillardel en Écosse ou en Arménie, est-ce qu'il fait quand même quelques références aux Ardennes?
Non, je suis désolé.
Pas ici, non, non. Okay. Bon, c'est dommage, ce sera pour la prochaine fois, j'espère.
Alors, là, oui, alors la prochaine fois, par contre, on retourne dans les Ardennes.
Ah, vous avez donc déjà un 12e roman de...
Il est écrit.
Ah, très bien.
Il est écrit, il est pas entre les mains de mon éditeur. Je vais le retravailler cet automne. Et voilà, mon éditeur l'aura pour une éventuelle, si je reçois son imprimatur, il l'aura pour une éventuelle publication fin 2021. Mmh. Là, le point de départ, alors pour le moment, j'ai un titre, mais je ne veux pas dévoiler, qui sera peut-être qu'un titre provisoire. Le point de départ, c'est le Var, Draguignan, Nice, et ça se termine en apothéose dans les Ardennes, et plus précisément à Sedan.
Oh, très bien.
Au château de Sedan, et dans la région de Sedan. Et il y aura, c'est un polar contemporain, mm-hmm. Tout se passe de nos jours, mais il y aura un lien très 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 fort avec la guerre de la bataille de Sedan en 1870.
Ah très bien, très bien. Voilà. Ah ben je suis vraiment très impatient de lire, bon ça faut que j'attende un an mais...
Ah, c'est un roman, je vais peut-être vous paraître prétentieux, mais c'est juste une référence. C'est un roman... qui va prendre des allures de Granger, si vous voulez, donc Christophe Granger. C'est un peu
dans cette veine,
dans cet esprit-là.
D'accord.
Voilà.
Très très bien. Et quand vous écrivez un roman dans les Ardennes ou vous habitez dans le sud de la France, mais si vous avez écrit un roman sur l'Écosse, l'Arménie, est-ce que vous faites des repérages sur place?
Oui. L'Arménie, il se trouve que je n'avais pas besoin de faire de repérage sur place parce que l'Écosse est un pays où vit ma fille aînée et où je séjourne tous les ans pratiquement, que je connais très très bien. Voilà, l'Écosse, je peux vous écrire un guide touristique sur l'Écosse. L'Arménie, j'y ai séjourné il y a 2 ans, j'y ai séjourné une vingtaine de jours et j'ai pris des notes, je savais que je me servirais de ce voyage comme documentation pour un roman. Et voilà, je sais qu'il y a des auteurs qui localisent leurs intrigues dans des endroits où ils sont jamais allés, mmh. Qui ont une documentation, une connaissance livresque. Moi, c'est vraiment conforme à la réalité. Hein. Les Arméniens et les Écossais liront, j'espère, mon roman, vont se dire, il connaît bien l'endroit.
Très bien. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre processus d'écriture? Vous commencez par une idée et après, est-ce que vous pouvez...
Là, c'est une question dont la réponse n'est pas simple, parce que il n'y a pas deux romans que j'ai écrits de la même façon. J'ai pas une méthode, j'ai pas de rituel, c'est le sujet qui commande, qui détermine la méthode de travail. Soit, c'est un sujet que je possède parfaitement et je n'ai pas besoin de me documenter. Et j'écris au fil des pages, je suis le fil de l'histoire. Mais quand il y a une construction un peu plus complexe, comme c'est le cas pour Le Secret des Toscans, comme c'est le cas pour celui qui va sortir, ou encore celui dont je vous parlais tout à l'heure, le thriller historique 24, je suis obligé effectivement de m'organiser, de me repérer. Il faut éviter les incohérences. Il faut bien respecter tous les problèmes de temporalité. Et donc, j'utilise des moyens matériels comme des grandes feuilles de papier sur lesquelles je dessine des diagrammes. J'ai besoin je suis un visuel, donc j'ai besoin d'éléments visuels dessinés pour pouvoir me repérer dans le champ spatial, mais surtout dans le champ temporel.
Très bien.
Parce que la narration, quand elle n'est pas linéaire, comme dans certains romans, hein, certains romans c'était linéaire, ça coule de tout seul, mais on est obligé de passer du passé au présent, etc., et il ne faut pas se planter pour parler liamment.
Très bien. Et donc, quand vous passez à la phase rédaction, après toute cette phase de préparation, est-ce que vous avez une habitude particulière? Est-ce que vous avez un rythme particulier?
Non. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de rituel. J'écris quand je sens que le moment est venu, quand aussi le moment est opportun. Par exemple, c'est tout bête, je suis un bon dormeur, hein, je suis pas. J'ai été insomniaque, plus ou moins insomniaque quand j'étais plus jeune, là je dors très bien, mais aussi, la nuit je me réveille, je sens que le sommeil ne va pas en venir, je me lève discrètement pour pas et je vais m'installer, alors j'écris. Il est vrai que au petit matin, la nuit, c'est là où on est où je trouve qu'on est le plus performant. Hein. Mais il m'arrive aussi d'écrire dans la journée, il m'arrive d'écrire. Par exemple, le prochain, celui qui sortira, pas le prochain, suivant, celui qui devrait sortir fin 2021, qui terminera comme je lui donne l'apothéose à ce nom, il m'est arrivé d'écrire 4-5 heures de suite.
C'est beaucoup, oui.
Oui, avec des interruptions quand même,
Oui.
mais des courtes interruptions. Parce que quand on sent qu'on tient le fil,
Le bon
le fil
bout.
du récit, on ne veut pas le lâcher.
Très bien. Et si vous pouviez donner un conseil aux jeunes auteurs ardennais qui voudraient, quel conseil donneriez-vous?
Ah mais sur quel plan?
D'abord sur le plan de l'écriture.
Bah écoutez, moi je suis difficile parce que tout dépend d'abord du sujet qu'il traite, hein, si c'est la littérature blanche, fantastique, science-fiction, polar, mais déjà avant toute chose, moi je leur dirais qu'il faut se lancer sans complexe. Hein. Je connais enfin, j'ai croisé à plusieurs reprises dans des dédicaces, notamment sur des salons, des jeunes qui viennent me voir et qui me demandent comment on fait pour écrire, comment on fait pour écrire tout ça. Bon, genre, écoutez, il me dit je ne me sens pas capable, il faut franchir le pas. Hein. Tout le monde est capable à partir du moment où on maîtrise un peu, on maîtrise même la langue. Tout le monde est capable de se lancer et d'imaginer des histoires. Je crois que le problème, c'est l'inspiration, c'est l'imagination. À partir du moment où on est capable de générer des idées, ensuite, l'écriture, ça devient une habitude. On s'y habitue et on finit par écrire, je dirais, naturellement. En tout cas, moi, ça a été le cas, hein.
Et donc maintenant, un autre conseil, donc le jeune auteur a suivi votre conseil, il s'est lancé, il a écrit. Quel conseil donneriez-vous aux auteurs ardennais qui n'arrivent pas à se faire publier?
Alors, le fait qu'il soit ardennais ne joue pas, à mon avis. Hein, il pourrait être breton, basque, auvergnat, provençal. Le problème, c'est qu'actuellement, l'édition est saturée. Il y a de plus en plus enfin, ces dernières années, il y a de plus en plus de manuscrits qui arrivent sur le bureau des auteurs. Alors, je pense qu'il ne faut pas s'adresser à un grand éditeur, ce qu'on appelle un grand éditeur. Gallimard, Albin Michel, Calman Levy. Bon, il se peut qu'un jeune auteur, pour son premier manuscrit, soit accepté dans une grande maison, mais ça représente un pourcentage infinitésimal. Et à la plupart du temps, ils recevront, dans 98 ou 99% des cas, ils recevront une lettre type, voilà, votre roman, votre texte est très intéressant, mais on ne peut pas rentrer dans notre cadre éditorial, etc. Enfin, voilà, on connaît ce genre de... Moi, je leur conseillerais, surtout s'ils sont jeunes. Bon, moi, j'ai commencé quand même assez tard, hein, donc le temps pressait. Mais s'ils sont jeunes, c'est de s'adresser à des maisons beaucoup plus abordables. Il y a des petites maisons d'édition qui démarrent ou qui sont déjà, qui ont déjà un peu le vent en poupe, mais qui acceptent encore de se lancer dans l'aventure avec de jeunes auteurs. Alors, je ne peux pas vous citer ces maisons, il y en a quelques-unes, bon, c'est vrai que je les lis. Il faut chercher, il y a des annuaires, il y a sur Internet, il y a plein d'informations, Internet une ligne extraordinaire. Il faut chercher les éditeurs polars, les éditeurs science-fiction, et aller dans une maison modeste où on a davantage de chances de se faire publier. Et ensuite, une fois qu'on a le pied à l'étrier dans une maison comme celle-là, rien n'empêche, si le succès vient, si on a une certaine visibilité, de pouvoir tenter sa chance dans une maison un petit peu plus en vue. Hein. je connais un tas de collègues qui ont fait comme ça. Moi-même, j'ai fait ça. Hein. Moi, j'ai commencé chez l'Harmattan, bon, c'est une maison assez controversée, à mon avis, à tort. Alors, le gros problème chez l'Harmattan, c'est la communication, la promotion. Mmh. Maintenant, ça s'est développé. À l'époque, moi, quand je suis rentré, c'était état néant. Donc, j'étais obligé de faire moi-même ma propre promotion et je vendais pas beaucoup. Je vendais pas beaucoup de livres. Et puis, j'ai trouvé une de ces petites maisons, Wartberg, qui a disparu malheureusement, mais une de ces petites maisons où j'ai pu avoir un lectorat, élargir mon lectorat. Et puis là, je suis rentré chez La Joanie, où là, bon, c'est une maison en vue dans le domaine du polar, un éditeur parisien qui fait de la communication, de la promotion et qui est connu. Donc, c'est pas Fleuve Noir, mais c'est quand même un éditeur qui commence à être en vue, voilà. Donc, je conseillerais d'y aller graduellement.
Très bien, merci. Bah, c'était très intéressant d'en savoir un peu plus sur votre œuvre et votre métier d'écrivain. Bon, ben, je vous remercie et à une prochaine fois. Au revoir.
Voilà. Au revoir. Bonne journée.
Merci.